Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 22 Aban, 1401 du calendrier iranien, 13 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi par un commentaire politique. L'Iran a dénoncé les récentes oppositions anti-iraniennes de l'axe Paris-Berlin. L'Iran traduit en justice les personnes impliquées dans les récentes violentes émeutes. Téhéran dénonce les récentes positions anti-iraniennes de l'axe Paris-Berlin. Téhéran et Moscou sont pour l'approfondissement de leur coopération politique et économique. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran donne suite à ses poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans les récentes violentes émeutes, la justice accusant plus de 750 personnes dans trois provinces. Les affaires ont été déposées dans la province méridionale de Hormozgan ainsi que dans les provinces centrales de Markazi et d'Ispahan. Les personnes détenues sont notamment accusées d'incitation au meurtre, d'atteinte aux forces de sécurité, de diffusion de propagande contre le gouvernement et de dégradation de biens publics. Ils seront jugés en présence de leurs avocats. Plus de 2000 personnes avaient déjà été inculpées, dont près de la moitié dans la capitale Téhéran. La République islamique d'Iran condamne la rencontre du président français Emmanuel Macron avec l'une des figures contre-révolutionnaires et ses compagnons en marge du Forum de Paris sur la paix. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné la rencontre controversée, la qualifiant de violation flagrante par la France de ses responsabilités internationales dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la violence. Le commentaire d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont mis l'accent sur l'approfondissement de la coopération politique et économique entre l'Iran et la Russie. Le Kremlin a déclaré que les deux présidents avaient discuté d'un certain nombre de questions liées à l'agenda bilatéral. Les deux hommes ont également mis l'accent sur l'avancement de la coopération dans les domaines politiques, commerciaux et économiques, y compris le secteur du transport et de la logistique. La conversation téléphonique a eu lieu peu de temps après qu'un haut responsable de la sécurité russe a rencontré des responsables iraniens à Téhéran où les deux pays se sont engagés à resserrer leurs liens. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis et l'OTAN militarisaient l'Asie du Sud-Est pour contenir les intérêts de la Russie et de la Chine dans la région d'Asie-Pacifique. Sergueï Lavrov affirme que les États occidentaux tentent de maîtriser la région de l'Asie du Sud-Est. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, la stratégie Indo-Pacifique de Washington vise à contourner les structures de coopération régionale. Sergueï Lavrov s'exprimait après avoir assisté au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est à Phnom Penh, au Cambodge. Il dirigera également la délégation russe au sommet des pays du G20 à Bali, en Indonésie. Le président américain Joe Biden a déclaré plus tôt aux dirigeants de l'ASEAN que Washington s'était engagé à construire un Indo-Pacifique libre et ouvert. Moscou et Pékin, cependant, considèrent la présence américaine dans la région comme une menace pour leurs intérêts nationaux. Le président ukrainien a déclaré que les forces russes avaient détruit les infrastructures essentielles de la ville méridionale de Kherson avant de se retirer de la région. Volodymyr Zelensky a déclaré que des combats extrêmement féroces se déroulaient actuellement dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. L'armée russe a ordonné jeudi le retrait de ses forces de Kherson. Le commandant russe en Ukraine a déclaré qu'il n'était plus possible de continuer à approvisionner la ville. Kherson était l'une des quatre régions d'Ukraine que Moscou avait annexées en septembre. La directrice du Fonds monétaire international met en garde contre les risques pour l'économie mondiale de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Kristalina Georgieva a évoqué la possibilité d'une seconde guerre froide, soulignant que la façon dont Washington et Pékin agissent est très irresponsable. Dans ce contexte, la présidente du FMI a critiqué les tarifs imposés sur les importations chinoises sous l'ancien président américain Donald Trump. Elle a déclaré que les devoirs n'ont pas été soigneusement réfléchis et sont contre-productifs. La question des tarifs douaniers n'est qu'un des points de friction qui ont envenimé les relations entre les États-Unis et la Chine ces dernières années. Parmi les autres sujets de discorde figure la souveraineté de la mer de Chine méridionale, Taïwan, la technologie, la cybersécurité, l'autonomie de Hong Kong et les origines de la pandémie de coronavirus. Et enfin, la capitale allemande, Berlin, a été le théâtre d'une manifestation contre l'inflation déclenchée par la flambée des prix de l'énergie. Environ 3000 personnes ont manifesté samedi 12 novembre dans le centre de Berlin pour demander un contrôle des prix des denrées alimentaires et une taxation sur les hauts revenus. Les participants à la manifestation ont également appelé le gouvernement à imposer des taxes supplémentaires aux revenus élevés et aux grandes entreprises qui tirent de grands bénéfices de la crise énergétique, et ce, en signe de solidarité avec les plus démunis. Lors de la manifestation, les Allemands ont brandi des banderoles appelant à une rupture plus rapide avec les combustibles fossiles. L'inflation en Allemagne, alimentée par la guerre en Ukraine, a atteint 10,4% en octobre, son plus haut niveau en 70 ans. Mercredi, les économistes ont proposé d'augmenter des impôts sur des hauts revenus afin d'aider les ménages confrontés à la flambée des factures d'énergie. Mais cette proposition a été immédiatement rejetée par le ministre allemand des finances. Dans le contexte de fortes hausses du prix de l'énergie, des nouveaux mouvements de contestation commencent à émerger en Europe. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné ce dimanche 13 novembre la rencontre du président français Emmanuel Macron avec l'une des figures contre-révolutionnaires iraniennes et ses compagnons en marge du Forum de Paris sur la paix. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné cette rencontre, la qualifiant de violation flagrante par la France de ses responsabilités internationales dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la violence. Nasser Kanani a ajouté : Il est surprenant que le président d'un pays qui prétend de défendre la liberté se soit rabaissé en rencontrant une personne détestée qui, à ces derniers mois, tentait de façon flagrante de semer la haine et d'attiser des actes violents et terroristes à l'intérieur du pays contre les sièges diplomatiques et les diplomates de la République islamique d'Iran à l'étranger. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a vivement protesté contre les propos du président français Emmanuel Macron, les jugeant regrettables et honteux. Emmanuel Macron a apporté son soutien à ce qu'il a appelé une soi-disant révolution, dont cet opposant à la révolution islamique est l'un des leaders. Par conséquent, une telle rencontre est une violation flagrante par la France de ses responsabilités internationales dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la violence, et c'est une façon d'encourager la propagation de ces fléaux funestes, a indiqué le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. De telles mesures anti-iraniennes resteront sans aucun doute gravées dans la mémoire de la nation iranienne, qui est bien consciente des approches sélectives allant à l'encontre des droits de l'homme de certains dirigeants européens. Dans une autre partie de ses propos, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, a dénoncé les récentes positions du chancelier allemand envers la République islamique d'Iran et les a qualifiées d'interventionniste, de provocatrice et de non-diplomatique. Malheureusement, certains soi-disant défenseurs des droits de l'homme ont ignoré leur bilan sombre contre le peuple iranien en apportant un soutien aveugle et inhumain à l'ancien régime irakien de Saddam Hussein face à la République islamique d'Iran et aux sanctions cruelles contre l'Iran suite au retrait des États-Unis de l'accord nucléaire. Ils ont gardé le silence face à l'attentat terroriste de Daesh perpétré contre le sanctuaire de Shah Jirar à Shiraz. En réalité, ils instrumentalisent les droits de l'homme pour leur jeu politique, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Nasser Kanani a appelé les autorités allemandes à ne pas détruire l'atmosphère des relations bilatérales, rappelant que le respect mutuel était la seule voie vers une coopération durable entre l'Allemagne et la République islamique d'Iran.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du débat du jour. En effet, le mouvement yéménite Ansarallah a vivement condamné la visite de l'ambassadeur américain à Hadramout, qualifiant cette visite d'agression claire contre le Yémen. Selon Ansarallah, un pays qui soutient et finance les agresseurs contre le Yémen ne peut pas tenir compte des intérêts du peuple yéménite. En effet, une agression multidimensionnelle qui se poursuit depuis plus de 7 ans maintenant contre le Yémen par la coalition saoudienne et les États-Unis, qui sont à la tête des pays fournisseurs d'armes à l'Arabie saoudite et à leurs alliés moyen-orientaux, mais aussi occidentaux. Dans cette édition du débat, nous allons évoquer ce sujet avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un reportage à ce sujet. On revient tout de suite après.
Yémen met en garde les USA. Le mouvement Ansarallah a condamné la visite de l'ambassadeur des États-Unis à Hadramout, affirmant qu'un pays comme les États-Unis, qui finance et soutient l'agression contre le Yémen, ne peut jamais tenir compte de l'intérêt du peuple yéménite. Le mouvement Ansarallah a qualifié cette visite comme un acte agressif visant la sécurité et l'unité du Yémen. Le bureau politique du mouvement Ansarallah a affirmé dans un communiqué: nous condamnons fermement la visite de l'ambassadeur américain dans le gouvernorat de Hadramout et nous la considérons comme un acte agressif qui vise la sécurité, la stabilité et l'unité du Yémen. Le communiqué a ajouté que le peuple yéménite rejette fermement toute activité américaine contre le Yémen, qu'elle soit déclarée ou non. Ansarallah a appelé les États-Unis à se soumettre à la volonté du peuple yéménite et à son droit légitime d'accéder à l'indépendance loin de toute tutelle, de cesser l'agression, de lever le siège et de mettre un terme à l'ingérence étrangère. Le mois dernier, les forces armées yéménites ont annoncé qu'elles avaient effectué une frappe d'avertissement mineure afin d'empêcher un navire pétrolier qui tentait de piller du pétrole brut via le port d'Aldaba dans le gouvernorat d'Hadramout. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sareh, a déclaré que le navire pétrolier a violé la décision rendue par les autorités compétentes d'interdire le transport et l'exportation des dérivés pétroliers souverain du Yémen. Dimanche dernier, le mouvement Ansarallah a révélé un afflux de forces américaines et britanniques dans les gouvernorats d'Hadramout et d'Al-Mara, accusant Washington et Londres d'avoir organisé une nouvelle escalade militaire au Yémen après l'expiration de la trêve des Nations Unies au Yémen le 2 octobre dernier. Début octobre, Sanaa a annoncé que les négociations pour prolonger l'armistice étaient dans une impasse. Il convient de noter que le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi al-Mashat, a déclaré lors de son rencontre avec l'envoyé de l'ONU, Hans Grundberg, que le paiement des salaires de tous les employés de l'État et des pensions des retraités est une demande essentielle pour le peuple yéménite, avertissant que si cela n'est pas réalisé et que les bénéfices de l'armistice ne s'améliorent, il n'acceptera pas son renouvellement.
Nous sommes en ligne avec deux invités, Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles, et Rada Oubala, madame le docteur Rada Oubala, géopoliticienne depuis Beyrouth. Donc je vous dis à tous les deux bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition du débat. Je commence avec vous, madame Oubala, merci de nous avoir accordé votre temps dans un premier temps. Comment interprétez-vous cette visite de l'ambassadeur américain à Hadramout? Quel message voulez faire écouler les États-Unis à travers cette visite qui n'est pas le bienvenu, notamment par Ansarallah?
Oui, tout à fait. Alors d'abord, je souhaite dire bonjour à votre invité, professeur Luc Michel. Et également, je profite de cette occasion pour présenter toutes mes condoléances au peuple iranien suite à l'attentat qui a eu lieu il y a 2 semaines, je crois. Et qui a malheureusement beaucoup de martyrs sont tombés. Voilà.
Merci
cela
à
dit,
vous.
Pour
merci.
Répondre à, cela dit, pour répondre à votre question, alors, j'imagine que suite à l'intensification des batailles entre la Russie et l'Ukraine et les répercussions de ces effets économiques catastrophiques sur Washington et les pays de l'Union européenne, l'administration américaine, en effet, a intensifié ses navettes de terrain vers le gouvernorat occupé de Hadramaut, dans l'est du pays, qui est, il faut le rappeler, riche en secteur pétrolier et qui jouit d'une position stratégique puisqu'il surplombe la mer d'Oman. La visite de l'ambassadeur américain dans la ville de Kola, qui est le chef-lieu du gouvernorat, n'est pas la première, c'est la troisième en deux semaines. Et à mon avis, c'est pour achever leur contrôle militaire direct sur les puits de pétrole, pour les piller et les voler, et sans doute pousser l'escalade militaire au Yémen. Pourquoi ? Surtout à la lumière de la scène brumeuse qui plane sur l'arène yéménite après l'annonce officielle le 2 octobre dernier par le chef de la délégation nationale Mohamed Abdelsalam de la fin de la trêve temporaire. Maintenant, selon des sources médiatiques yéménites qui ont évoqué les détails, plutôt les raisons de cette visite de l'ambassadeur américain à Hadramaut, qui n'est pas, à mon avis, différent de ses prédécesseurs dans le contexte, puisque cette réunion qui a rassemblé l'ambassadeur Stephen Fagan et qui a eu lieu avec le gouverneur de Hadramaut, qui est nommé par les pays de la coalition d'agression, qui s'appelle Mahmoud Ben Mahdi, elle s'est concentrée sur ce qu'ils ont appelé eux-mêmes comment empêcher les dirigeants de Sanaa du pillage et de l'exportation du pétrole brut. Bon, sachant que ce pétrole brut, c'est les États-Unis a le plus besoin actuellement. En fait, elle est en train de chercher partout où est-ce qu'elle peut justement se procurer du pétrole à la lumière de ce qui se passe dans la crise ou la guerre russo-ukrainienne. En plus, durant cette réunion, ce qui a été également marquant, c'est sous le titre « Lutter contre le terrorisme pour… » justement, pouvoir contrôler Hadramaut. Washington cherche actuellement à médiatiser ou commercialiser de nouveaux prétextes à l'opinion publique yéménite, notamment travailler au renforcement du champ sécuritaire, coordination mutuelle, faire preuve d'acuité et de grand soutien militaire à l'autorité locale du gouvernement, du gouvernorat. Il a également été discuté lors de deux réunions tenu cette semaine dans la ville d'Omkala en présence de l'ambassadeur américain Stephen Hagan, mais aussi en présence d'une équipe de haut niveau de renseignement américain dirigée par le major Kevin dans la ville d'Omkala. Et des détails, comment renforcer justement la sécurité dans ce gouvernorat. Donc les résultats de la réunion ont été l'annonce de la... Aussitôt cette réunion terminée, la première chose qu'ils ont annoncée, c'est condamner le ciblage par Sanaa du port de Daba le 5 octobre dernier et également condamner les répercussions de l'impact de la grève sur la navigation en mer d'Oman. Ce qui, à mon avis, révèle clairement un stratagème américain insidieux sur la terre d'Hadramaut. En plus, si je peux continuer.
Oui, bien sûr, on vous écoute.
Selon les données, pourquoi la question qui se pose, pourquoi les États-Unis insistent à contrecarrer les efforts de paix ? Donc il y a une lecture qui est une lecture de la part d'observateurs yéménites, selon laquelle l'insistance de la part des États-Unis de faire exploser la situation forme une réponse à l'annonce de la décision de Riyad et de l'OPEP+, le 13 octobre 2022, de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils, et qui a pris pour effet, qui est entré en vigueur le 1er juin. Et cette décision a bien entendu eu des répercussions très négatives sur les États-Unis et l'Union européenne. En conséquence, En plus de cela, l'ampleur des divergences entre les dirigeants de la coalition d'agression contre les MNC s'est aggravée, ce qui a dérangé l'administration américaine et qui a décidé de sanctionner, de punir, de riposter le Royaume d'Arabie Saoudite via Sanaa, selon le plan suivant, à savoir, les États-Unis annoncent l'échec de la trêve ou de l'armistice, de la trêve plus précisément, et s'imaginer, enfin, c'est ce qu'ils espéraient, que Sanaa lancera des frappes douloureuses, mais Sanaa ne l'a pas fait, parce que Sanaa était au courant de ce qui se passait. Elle a réalisé le plan américain, et donc, à la lumière du rapprochement de l'Arabie saoudite avec les Émirats.
Je pense qu'on a une petite coupure d'Internet. Mes collègues vont essayer de rétablir la connexion pour que nous puissions avoir votre analyse complète à la suite de l'émission. Mais en attendant que mes collègues rétablissent la connexion avec Rada Oubala, Luc Michel, est-ce que vous êtes là ?
Oui, je suis là, madame.
Merci.
Bonjour à votre équipe et bonjour à madame Oubala.
Merci beaucoup. Merci d'être avec nous pour ce débat. Luc Michel, quel regard portez-vous sur cette visite ? Nous avons entendu l'analyse de Rada Oubala. Donc, quelle est votre analyse en ce qui concerne les objectifs de cette visite et le rôle destructeur que jouent les États-Unis dans la région, mais notamment au Yémen ?
Écoutez, les Américains qui viennent au Yémen, ce sont des pyromanes qui viennent jouer les pompiers. Ce que rappelle Ansarallah, c'est le rôle des États-Unis aux côtés de la coalition saoudienne d'agression. Mais avant cela, ils sont responsables de la tragédie yéménite parce qu'ils ont lancé là-bas en 2011 la version yéménite du printemps arabe. Ils ont renversé le président Saleh, qui était le président uni, élu de tous les yéménites. Et ils ont mis au pouvoir un président fantoche, pro-américain. C'est à la suite de l'échec de ce président fantoche que la guerre d'agression a commencé. L'axe de la résistance a neutralisé tout cela en réalisant une union entre les Houthis en Sarala et l'ancienne armée yéménite du président Saleh, c'est-à-dire l'union de tous les Arabes et tous les patriotes yéménites pour combattre les Américains, les Britanniques, les Français, qui sont les parrains des Saoudiens. Maintenant, comme Mme Oubala l'explique, la crise ukrainienne a des conséquences très fortes au Yémen. En effet, les Saoudiens, mais aussi les Yéménites, sont en train de se détourner des États-Unis. Les Yéménites avaient jusque-là servi le plan américain géopolitique qui est de démembrer le Yémen pour contrôler parallèlement à la Somalie les deux rives des détroits d'entrée de la mer du Mekong en réactivant la sécession yéménite des années 60. Il y a un mouvement de sécession de l'ancien Yémen du Sud qui se fait avec le drapeau d'ailleurs de l'ancienne république sud-yéménite, et les Saoudiens, eux, soutenaient le plan américain de contrôle du pétrole. Il faut voir, je suis d'accord évidemment, que l'action américaine actuelle vise à contrer à la fois l'axe de la résistance, mais également les Saoudiens et les Yéménites qui ne sont plus viables pour les Américains. Il faut donc évidemment repousser toute intervention des États-Unis au Yémen.
Merci Luc Michel. Restez avec nous. Je pense que la connexion a été rétablie avec Rada Oubala. Madame Rada Oubala, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, j'ai également écouté l'opinion du professeur Luc Michel qui
Merci.
M'a beaucoup satisfaite.
Merci beaucoup à vous. Alors, vous étiez en plein milieu de votre analyse, donc on vous écoute. La suite de votre analyse, effectivement, une réaction à ce que Luc Michel a dit.
De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Luc Michel. J'ajouterai justement pour compléter sa réponse, c'est que il y a justement des mouvements suspects qu'on a pu observer récemment. Ce sont des mouvements qui traduisent ou qui reflètent des activités des mouvements américains à l'aéroport international d'Al Arayan, qui est sous le contrôle de l'occupation émiratie et qui a été témoin en début de semaine d'un nouveau débarquement des forces américaines à travers un gros avion cargo transportant des dizaines de marines lourdement armées en provenance de la base militaire d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, où se présentent des forces militaires multinationales, y compris les forces américaines. Et donc l'arrivée de ce nouveau lot des forces d'occupation américaines intervient 2 jours après que le gouverneur de la Dramotte ait tenu plusieurs réunions avec des officiers américains dans son bureau de Mkalla. Donc on comprend que la condamnation justement de toutes les forces nationales yéménites à leur tête Ansarullah contre justement cette visite, eh ben, elle a été prouvée juste puisque un nouveau lot de forces d'occupation américaines a débarqué suite à cette réunion. Maintenant, selon des sources médiatiques, ils ont indiqué qu'une équipe américaine s'est rendue il y a quelques semaines dans le district côtier de Brom, en parallèle, c'est-à-dire accompagnée, et c'est ça qui est intéressant, d'entreprises américaines qui commencent à envoyer des délégations pour explorer les investissements dans les secteurs du pétrole, de la pêche et des ports. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ce qui motive actuellement, hormis le fait, le cadre géopolitique, c'est-à-dire au niveau des représentations géopolitiques des États-Unis, de son rôle dans la région, de la représentation géopolitique de l'Arabie saoudite avec Mohammed bin Salman, qui est différente de celle de ses prédécesseurs, et donc qui tente d'affirmer que l'Arabie saoudite ne veut plus ou refuse d'être sujette ou le sujet justement des États-Unis. Il y a aussi ce qui est extraordinaire, c'est que après la découverte, comment dirais-je, l'institution de la science géopolitique, le facteur économique a repris le dessous après ce qui s'est passé à cause justement de la guerre russo-ukrainienne, et on revient sur le thème des guerres qui sont motivées par le pétrole, parce que actuellement c'est devenu une question de survie, beaucoup plus que des guerres qui prévalaient sur des questions, des représentations géopolitiques différentes. C'est très intéressant à lire plus tard comment justement cela affectera l'avenir des relations internationales à tous les niveaux. Voilà.
Merci beaucoup, merci pour vos explications. Reste en ligne, Luc Michel, à votre avis, vu les évolutions de la région, la montée en puissance du Yémen, d'Ansar Allah, en soutien de ses alliés, de l'axe de la résistance, notamment de l'Iran, la faiblesse des États-Unis et leurs préoccupations partout dans le monde avec les guerres qu'ils ont initiées, ou les guerres où, dans lesquelles ils participent activement, dont la crise russo-ukrainienne. Comment pourrait-on interpréter la perspective des évolutions dans les mois à venir, voire dans les années à venir, au Yémen?
Écoutez, tout cela prend plan dans l'axe de la géopolitique mondiale qui est celui de l'affaiblissement des États-Unis. Imprudemment, les États-Unis ont lancé la guerre américaine en Ukraine, qui est une guerre préventive de la Russie contre les plans américains. Ils avaient 3 buts de guerre. Le premier, c'est d'affaiblir géopolitiquement la Russie, mais les 2 autres, c'était de fracturer économiquement l'Union européenne, qui est le grand rival économique des États-Unis. Et le 3e, c'était de garder le contrôle des marchés du pétrole. Derrière les guerres géopolitiques américaines, il y a des intérêts économiques. Imprudemment, les Américains, avec les sanctions contre la Russie et les sanctions contre l'Iran, ont sapé les fondements de l'ordre mondial économique qu'on appelait la globalisation. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre le contrôle du marché du pétrole.
Alors, la connexion a été coupée, effectivement, avec Luc Michel. Rada Oubala, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis.
Merci. Alors, je vous pose la question en ce qui concerne la perspective des évolutions dans les mois, les années à venir, vu les évolutions de la région, surtout au Yémen.
Oui, alors, pour les années à venir, c'est un peu difficile de répondre parce que toute la région est dessus-dessous et également maintenant ce que l'Union européenne et ainsi les États-Unis sont impliqués dans cette affaire. Enfin, il est clair qu'il y a un avant la guerre russo-ukrainienne et un après. Et pour l'après, puisque c'est votre question, quelles seront les conséquences sur l'équation géopolitique de la région ? Et bien, pour l'instant, on ne peut pas répondre de manière décisive. On peut dire seulement que tout dépend de la position de l'Iran, de l'évolution de l'accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis. Tout dépend de ce qui se passe actuellement et c'est très important en Palestine occupée, surtout en Cisjordanie qui maintenant fait partie de l'axe de la résistance palestinienne, si on peut s'exprimer ainsi. Et aussi, il y a au niveau des pays du Golfe ou des pays du Moyen-Orient, bon, la Syrie est encore subit encore la loi de César, mais aujourd'hui l'armée syrienne a marqué une victoire dans une opération menée à Deraa contre Daesh, donc également là il y a également ici une certaine évolution. Il ne faut pas oublier également qu'il y a eu récemment de la part de la Turquie des signes lancés envers la Syrie souhaitant se rapprocher de la Syrie. Donc il y a la question kurde également. Il y a aussi la question de l'avenir de l'Union européenne face à ce qui se passe actuellement en Ukraine au niveau économique. Donc il y a beaucoup de défis qui vont marquer un nouvel ordre mondial, un nouvel repositionnement des puissances au niveau régional et également au niveau international. Il ne faut pas oublier également le rôle de la Chine dans ce repositionnement au niveau international. Et également, il ne faut pas oublier que l'entité sioniste, c'est vrai que c'est Netanyahou qui est venu au pouvoir, mais Netanyahou ne peut pas vraiment, n'a pas une marge de manœuvre assez large comme c'était auparavant. D'ailleurs, c'est ce que soulignent les médias israéliens, puisque les médias israéliens ont souligné qu'ils craignaient les drones iraniens, que les drones iraniens tombent entre les mains du Hezbollah ou les alliés de Téhéran. Également, on constate que aujourd'hui, j'ai lu quelque chose au niveau de l'économie mondiale, que Newsweek estime que les aides de l'Europe à l'Ukraine constituent un danger pour l'économie européenne. Donc, est-ce que les Européens vont poursuivre leur soutien financier à l'Ukraine ? Également, il y a eu aujourd'hui quelque chose de très, très important, une manifestation en Jordanie qui refuse l'accord d'eau en échange de l'électricité avec l'entité sioniste. Donc, vous voyez, toute la région est en train de bouillir. Ce que je peux vous dire par rapport au Liban, c'est que par contre, tous les observateurs au Liban estiment que la région va être dans un état de d'ébullition, alors que le Liban, il y a une décision internationale, c'est ce qu'on est en train de répéter, que le Liban, la scène libanaise sera refroidie et qu'elle risque fort de se retrouver sous tutelle de la Banque mondiale afin de sauver le Liban justement de la crise économique financière qu'il subit depuis 3 ans, 4 ans, et que la seule façon justement de pouvoir combattre la corruption qui sévit dans les institutions de l'État libanais, ce serait justement d'imposer malheureusement une tutelle de la part de la Banque mondiale. Voilà.
Merci beaucoup. Alors Luc Michel, géopoliticien, Rada Oubala, géopoliticienne à l'Université islamique du Liban, était avec nous pour ce débat. Vous pourriez également revoir toutes nos émissions, également ce débat du jour, sur notre site qui s'agit de french.presstv.ir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition d'Afrique Éco, une émission dans laquelle nous allons réviser ensemble les acquis financiers et économiques des pays du continent africain. Restez avec nous. Côte d'Ivoire et le Ghana lancent un ultimatum multinational. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont fixé le délai du 20 novembre courant aux multinationales du cacao pour respecter le montant des primes destinées aux planteurs, a-t-on appris d'un communiqué émis par le Conseil Café Cacao Ivoirien jeudi. Passé la date du 20 novembre 2022, le Conseil du Café Cacao et le Cocobot feront des recommandations à leurs gouvernements respectifs pour prendre des mesures allant jusqu'à la suspension de tous les programmes de durabilité et à l'interdiction d'accès aux plantations pour effectuer des prévisions des récoltes, indique le texte. Cet ultimatum fait suite à une rencontre il y a une semaine avec les acteurs du secteur à Abidjan. Les deux géants, qui pèsent pour 60% de la production mondiale de l'arbre brun, exige un engagement à payer la totalité du différentiel de revenus décents. Il s'agit d'une prime de $400 par tonne, en plus du cours du cacao. Dans le cadre du suivi du pacte économique passé entre les multinationales, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont initié des discussions le lundi 31 octobre et le jeudi 3 novembre 2022, respectivement avec le chocolatier Mondelez et les exportateurs Cargill, Olam et comme trading Semoy, Touton, Barry Calbot, ETG et Sasten. Au cours des discussions, les deux pays ont tenu à exprimer leurs vives préoccupations sur les réticences de l'industrie du cacao à respecter ses engagements librement exprimés à payer le différentiel de revenus décents DRD. Les responsables du gouvernement ivoirien ont signé vendredi un accord officiel d'organisation de la CAN 2023 avec la Confédération africaine de football. La signature est importante comme tout, mais garantit que la prochaine finale, qui aura lieu en 2024, se tiendra dans la nation ouest-africaine. Ces dernières années, le pays hôte des Coupes des Nations s'est déplacé dans un délai relativement court, le Cameroun ayant perdu les finales 2019 avant de les organiser tardivement plus tôt cette année. Avec d'autres dignitaires, le président de la CAF, Patrice Motsepe, était à Abidjan pour rencontrer des responsables du gouvernement ivoirien, dont le vice-président Tiemoko Meiliet Kone et le ministre de Sport, Paulin-Claude Dano, qui ont signé l'accord. 6 stades dans 5 villes, Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et la capitale Yomoussoukro, accueilleront les finales à 24 équipes qui se dérouleront en janvier et février 2024. Le stade olympique d'Emipe, un stade de 60 000 places à Abidjan, devrait accueillir le match d'ouverture et la finale, tandis que le stade Félix Houphouët-Boigny, de 45 000 places dans la ville, est également en cours de rénovation. Le comité d'organisation de la CAN 2023 s'est dit satisfait de l'avancée des travaux du stade Emipe à l'issue d'une visite technique le mois dernier. Parallèlement, l'Office national des infrastructures du pays a déclaré que les stades de Bouaké et de Yomoussoukro, qui accueilleront respectivement 40 000 et 20 000 places, sont pratiquement terminés. Siandou Fofana, ministre ivoirien du tourisme, a demandé que les hôtels soient mis aux normes internationales.
La Coupe des Nations 2023 a été initialement prévue pour juin et juillet de l'année prochaine, mais a été déplacée pour éviter la saison des pluies en Côte d'Ivoire. Les qualifications pour les finales sont en cours, mais les rencontres proposées en septembre ont été reportées pour permettre aux 5 participants africains à la Coupe du Monde d'organiser des matchs amicaux. Les matchs de groupe reprendront lors de la prochaine trêve internationale en mars, les deux derniers tours de match se tenant en septembre prochain. En Zambie, le riz occupe une place dans la consommation alimentaire derrière le maïs, le sorgho, le manioc ou l'arachide. Toutefois, depuis quelques années, la demande a augmenté sur le marché intérieur, conduisant à un renforcement de la dépendance à l'égard des importations. En Zambie, le Japon vient d'octroyer une subvention de 11 millions de dollars en soutien au programme national de développement de la production rizicole, rapporte le quotidien local Webantu. L'accord entérinant la mise en œuvre du financement a été signé le jeudi 10 novembre par le ministre des Finances Situmbeko Musokotwane et Mizuchi Yuta, l'ambassadeur japonais en Zambie. D'une durée de 3 ans, le projet qui sera déployé par l'Institut de recherche agricole ZARI-ZARI est axé sur le développement des semences de riz, l'amélioration de la productivité et le renforcement des services agricoles au profit des agriculteurs. Selon les autorités, l'enveloppe servira pour l'essentiel à construire de nouveaux centres de formation pour la station de recherche du mont Makulu à Lusaka et la station d'expérimentation agricole de Mansa basée dans la province de Luopula. Ce projet contribuera à l'acquisition de machines agricoles pour la transformation de riz, ce qui favorisera la diversification et l'augmentation de la valeur ajoutée générée par la filière, indique M. Yuta. En Zambie, l'offre locale de riz tourne autour de 48 000 tonnes par an. Selon les données du ministère de l'Agriculture, le pays dépend à hauteur de 31% des importations pour couvrir ses besoins de consommation annuelle qui avoisinent 70 000 tonnes. Burkina Faso, la sécurité alimentaire a été mise à rude épreuve par les conflits qui ont entraîné le déplacement des populations et par la sécheresse. Face à cette situation, un renforcement des investissements publics dans le secteur agricole est devenu une nécessité. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté le mercredi 9 novembre, en Conseil des ministres, un plan opérationnel destiné à appuyer la campagne agricole de la saison sèche 2022-2023. D'un coût total de 10,6 milliards francs CFA, cette stratégie a pour but de renforcer l'offre de plusieurs denrées de base durant ladite période afin de compenser les pertes de production liées au déplacement de population à cause de la situation sécuritaire dans le pays. Prévue pour être lancée la semaine prochaine, elle ciblera principalement la pomme de terre, les produits maraîchers, le maïs et le riz irrigué. Selon le ministre de l'Agriculture, plusieurs interventions seront déployées sur le terrain, dont la mise sur pied de 100 nouvelles fermes agricoles, la sécurisation de barrages et la mise en valeur de petits, moyens et grands périmètres irrigués autour de forages à haut débit. Il est notamment attendu à l'issue de la saison sèche une production de 60 000 tonnes de riz et un stock de 35 000 tonnes de maïs. Au-delà de la rentabilité financière du plan, c'est surtout sa rentabilité sociale et économique qui est importante. Au-delà des objectifs de production, ce plan s'intègre dans la vision globale de reconquête du territoire à travers la création d'opportunités pour l'ensemble des acteurs, en particulier pour les jeunes et les personnes déplacées internes, a indiqué Denis Ouedraogo, ministre de l'Agriculture. Pour rappel, le secteur agricole fournit environ 20% du PIB du Burkina. Depuis juillet 2022, la production pétrolière du Nigeria n'a cessé de dégringoler en raison d'une augmentation exceptionnelle du vol endémique du brut et des actes de vandalisme dans le pays. Selon des données publiées le jeudi 10 novembre par la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission, la production pétrolière du Nigeria a enregistré une hausse au terme du mois d'octobre. Sur la période, la production de brut a affiché en moyenne 1,23 million. Ceci représente une progression d'environ 8,18% par rapport aux 1,14 million réalisés en septembre. Une embellie pour la production locale d'or noir qui a successivement chuté en août, puis en septembre, en raison du vol systématique du brut dans le pays. Pour les analystes, cette performance résulte des mesures prises ces derniers mois par les autorités fédérales pour endiguer l'expansion du phénomène. Parmi celles-ci, la décision de faire appel à des compagnies de sécurité privées pour surveiller les installations pétrolières. Bien que cette augmentation de production soit positive au regard de la situation que traverse l'industrie pétrolière du Nigeria, elle est loin du quota de production exigé au pays par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Nous envisageons d'atteindre un plateau de production de plus de 2 millions de barils par jour et dépasser notre quota OPEP, a déclaré le directeur général de la NUPRC, Genga Komolafe, à condition, souligne, que 40 à 50% des puits producteurs fermés soient rouverts. Notons par ailleurs qu'il y a quelques jours, les autorités nigérianes ont rendu public un projet visant à lancer un cycle d'appels d'offres couvrant 7 blocs pétroliers situés en mer.
Thank you.